Appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70.
Igor Strauss.
C'est la reprise. Ce week-end, les championnats français, anglais, allemand et portugais redémarrent. Et la semaine suivante, ce sera le tour des championnats espagnols et italiens. Et comme chaque année, vos équipes préférées ont évolué avec le mercato d'une part et le transfert de joueurs, pas toujours évident. Les années de Coupe du Monde, certains joueurs préférant la stabilité pour ne pas risquer leur place en équipe nationale. Pas de souci de ce côté-là pour des équipes comme le Barça ou Chelsea qui ont frappé un grand coup sur ce fameux marché des transferts. Mais d'autres questions nous viennent à l'esprit. Sadio Mané fera-t-il oublier Robert Lewandowski au Bayern de Munich? Et Lewandowski, eh bien, fera-t-il aussi bien au Barça qu'au Bayern? Mais le changement ne concerne pas que l'effectif, cela peut également être une question d'image. Prenez le PSG par exemple, fini le bling-bling et la compilation de stars, nous dit-on. Place à la rigueur, aux joueurs de complément, au beau jeu, sans oublier de défendre. Alors ça, c'est sur le papier, mais dans les faits, qu'est-ce que cela change? Eh bien, c'est ce que vous allez nous expliquer. Et enfin, eh bien, les changements concernent également les actionnaires. On l'a vu à Lyon, notamment, avec la future prise de contrôle du club par un homme d'affaires américain, John Textor. Est-ce que cela permettra au club d'être plus ambitieux? À vous de nous le dire. Donc, appelez-nous, nous attendons vos témoignages, vos réactions au 33 9 693 693 70 et vos messages sur les réseaux sociaux. Les messages, en voici quelques-uns d'ailleurs. Mustapha Diallo nous dit « Les prétendants restent les mêmes. Le Real en Espagne, City et Liverpool en Angleterre, Marseille en France, le Bayern en Allemagne, le Milan AC en Italie et en Ligue des Champions, le Real Madrid reste toujours le numéro 1. » Robert de Cotonou nous dit « Je compte beaucoup sur le Barça qui a recruté certains joueurs impressionnants et en Angleterre, Arsenal a fait un bon recrutement avec Gabriel Jesus. Kojo, en Ligue des Champions, je vois le PSG en finale. Raphaël Delomé, ma seule inquiétude, c'est l'adaptation de Lewandowski au Barça. Et vous, quels sont vos points d'interrogation? Quels sont vos points d'interrogation, pardon? Quels sont vos favoris? On va tout de suite donner la parole à Ali, qui est à Nouakchott. Bonjour Ali.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Ali. Quels sont vos pronostics, vous? On commence avec l'Angleterre, un championnat que vous aimez bien, Ali.
Moi, le pronostic que je vais faire, c'est surtout concernant le Manchester City.
Ouais.
Par rapport aux dernières, je sais qu'ils ont eu, je crois que ça veut dire que cette année, ils vont vouloir faire un peu, en prenant conscience des différentes potentialités qu'ils ont et en voulant faire mieux que les années précédentes.
Mm-hmm.
Donc, je vois bien Manchester City dans le dernier carré et à la fin prendre la coupe du côté de l'Angleterre, quoi, c'est-à-dire rayonner sur le toit de l'Europe.
Ouais. Alors, Manchester City, hein, qui a eu un recrutement assez retentissant avec l'arrivée d'Erling Haaland, le jeune prodige qui est arrivé du Borussia Dortmund. Ça peut changer le jeu de Manchester City, qui n'avait pas d'attaquant de ce niveau-là. Gabriel Jesus est parti à Arsenal.
Ouais, Manchester City, avec l'arrivée de Erling Haaland, je vois que ça va vraiment améliorer les choses. Mais j'ai un petit doute par rapport au match de préparation que j'ai vu et surtout par rapport au dernier match qu'ils ont joué avec Arsenal.
Mmh.
Et il y aura un problème du côté de l'adaptation pour Erling Haaland. En gros, il n'y aura pas beaucoup de changements parce que Manchester City avait déjà des attaquants avec, par exemple, Aguero lorsqu'il était là-bas, avec Jesus lorsqu'il était là-bas. Parfois même, ça arrivait que le coach improvise en amenant un autre, comme par exemple, Mahrez ou autre joueur comme Faux-Neuf et autre quoi.
Mmh.
Mais quand même, Manchester City quand même a vraiment son mot à dire sur cette compétition à venir et je vois vraiment qu'ils vont faire quelque chose.
Et est-ce que la perte de Raheem Sterling, parti chez un concurrent, Chelsea, peut être préjudiciable pour Manchester City?
Personnellement, je dirais non, parce qu'à la place de Raheem Sterling, on peut retrouver le Phil Foden, et autres. Ils ont des remplaçants qui sont capables de combler ce vide. c'était juste du côté de l'attaque, c'est-à-dire avoir un vrai attaquant de pointe de classe mondiale, comme maintenant, si on parle des attaquants de pointe de classe mondiale, les Erling Haaland, les Lewandowski et autres font partie, plus les Benzema et autres. En tout cas, Manchester City, personnellement, ils vont faire quelque chose cette année.
Bon, ben écoutez, restez avec nous, Ali, parce que je sais que vous êtes un arbitre et on a des questions à vous poser sur l'arbitrage, donc restez avec nous. On va tout de suite accueillir Abdou de Dakar. Bonjour, Abdou.
Bonjour Igor et bonjour à l'ensemble de votre équipe.
Eh bien écoutez, bonjour à vous. Vous êtes un fan du championnat français et de l'OM notamment.
Oui, absolument. Moi, je suis donc un féru du championnat français, cela depuis maintenant un quart de siècle. Et mon équipe, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, donc je ne rate aucun match de l'OM depuis maintenant un quart de siècle. Et là, donc, j'attends avec impatience, même si c'est avec beaucoup d'inquiétude, le début du championnat français.
Et sur le recrutement, qu'est-ce que vous pensez du recrutement marseillais ?
Ah non, le recrutement, là, ça m'inquiète. Ça inquiète aussi beaucoup de supporters marseillais. C'est un recrutement qui est vraiment, je dirais, à la limite scandaleux parce qu'on a recruté des joueurs dont le talent reste encore à confirmer. Pour d'autres, il y a vraiment un sacré doute. Et surtout la gestion interne de certains joueurs. Moi, le cas qui me choque et qui choque aussi beaucoup de supporters marseillais, c'est le cas de l'international sénégalais Bamba Dieng, qui a été la révélation de l'année, qui a été champion d'Afrique, qui a fait feu et flamme. Le landerneau footballistique français a été ébloui par ce jeune. Et là, on a un nouvel entraîneur qui vient, qui veut s'en débarrasser. Comme ça, et que ça vraiment, quand on est supporter de l'Olympique de Marseille, souvenez-vous ma part, on se dit donc là ça inquiète. Voilà, et les matchs de préparation que l'équipe a effectué ne nous rassurent pas.
Alors effectivement, les dirigeants souhaitent un départ de Bamba Dieng, hein, notamment pour renflouer les caisses. Mais on parle, et ça également, ça vous a étonné, de la possible arrivée du Chilien Sanchez. Ça, vous n'avez pas compris, vous?
Un scandale, on ne peut pas comprendre.
Alexis Sanchez, qui n'est plus tout jeune.
Il a 35 ans, ces dernières années, il est en décadence. Il n'a pas prouvé depuis son départ de l'Angleterre, il n'a pas prouvé nulle part où il est allé. C'est un joueur qui est en fin de carrière, c'est un joueur qui n'est pas performant, c'est un joueur qui est sur l'autre pente. Je ne comprends pas pourquoi on veut se débarrasser d'un jeune tout frais, qui a un avenir prometteur et le remplacer par un vieillard qui n'a pas prouvé depuis ces 5 dernières années. Et là, c'est un problème que beaucoup de supporters marseillais n'ont pas compris. Il suffit de faire un tour dans les réseaux sociaux, dans les différents forums. Et là, on est beaucoup inquiets.
Mais ça, je l'imagine. Alors, j'ai demandé à Ali de rester avec nous parce qu'il est arbitre au niveau de la CAF. Et vous, vous remettez en cause, Abdou, l'arbitrage en France. Pourquoi ?
L'antenne. Hein. Igor, l'arbitrage français est un scandale. Est un scandale, c'est pas possible. C'est le niveau des arbitres français est vraiment écœurant. À chaque match, chaque week-end, c'est des erreurs d'arbitrage. C'est un niveau lamentable. Pour un rien, un siffle, un penalty, une faute, le jeu est haché et ralenti. Et la preuve, les clubs français en subissent. Lorsque les clubs français arrivent en Coupe d'Europe, eux habitués à un arbitrage médiocre où on siffle pour un rien, et en Angleterre, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, on les joue. Moi, je pense que là, si le championnat français parvient à régler le problème de l'arbitrage, c'est le monde footballistique français va beaucoup y gagner. Et je pense, je ne sais pas si lui, l'arbitre, est d'accord avec moi, mais je pense que tous les débats en France, après tous les dimanches, tous les samedis, c'est les débats qui tournent autour de l'arbitrage.
Alors écoutez, Abdou, on a bien compris ce que vous étiez dire. Je vais tout de suite donner la parole à Ali de Nouakchott, puisque Ali, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes arbitre international FIFA depuis janvier 2022. Et pour l'instant, vous êtes désigné par la CAF pour les compétitions régionales. Trouvez-vous également que l'arbitrage est un scandale en France, comme l'a dit Abdou de Dakar?
Bon, l'arbitrage, moi, je ne trouve pas vraiment que l'arbitrage au niveau de la France est un scandale. En dehors de ça, on peut dire que dans un match, l'arbitre ne peut pas vraiment assurer un match à 100% où il n'y a pas de faute et autres. D'ailleurs, si l'on se réfère aux différents matchs, il y a toujours des manquements. C'est-à-dire que les fautes qu'on peut reprocher à l'arbitre, ce sont les fautes, c'est-à-dire extrêmement graves. En tant qu'arbitre, on te demande d'ailleurs même d'éviter de faire des fautes qui parfois peuvent avoir des répercussions sur le résultat du match. C'est-à-dire l'arbitre reste un humain. Moi, ce que je trouve un peu, c'est-à-dire
Ouais, enfin, il n'y a pas de scandale pour vous au niveau de l'arbitrage. J'ai bien compris que vous souhaitiez protéger votre profession et ne pas vous prononcer sur l'arbitrage français. Merci à tous les deux, messieurs. Abdou Adakar et Ali Anouakchott. On va avancer dans ce débat. On va passer, on va aller du côté de Touba, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Bédiara, bonjour. Bédiara ?
Oui.
Bonjour Bédiara. Alors vous, au niveau des outsiders, il y en a un en France, c'est l'équipe de Nantes, c'est les Canaries, et un autre en Angleterre, Arsenal. Pourquoi ces deux équipes sont des outsiders à prendre au sérieux ?
Bon, des outsiders à prendre au sérieux, au niveau de la France par exemple, il faut dire que les Canaries ont fait une bonne fin de saison. Et puis, ils présentent des dispositions qui peuvent permettre quand même de leur donner la chance d'être très, 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 très virulents pour la campagne, la saison à venir.
Donc, vous croyez aux Canaries, vous, à l'équipe de Nantes ?
Oui, j'ai foi, mais il faudra qu'ils arrivent à persévérer et puis continuer dans la bonne marche jusqu'à la fin du championnat.
Donc les Canaries Nantes, vainqueurs de la Coupe de France l'année dernière, on se rappelle, face au Nice de Christophe Galtier, actuel entraîneur du PSG. Et en Angleterre, c'est Arsenal qui a toute votre attention avec des jeunes recrues.
Oui, la jeunesse de Arsenal, bon, il faut dire du temps de l'Arsenal des grands moments. Il faut dire que c'est la jeunesse qui faisait la beauté du jeu d'Arsenal. Mmh. Et aujourd'hui, on retrouve cette jeunesse-là qui commence à vraiment s'exprimer de façon positive. Et j'ai foi en ce que Arsenal perdu dans le Big Four pour, à partir de la saison prochaine, si et seulement si on n'a pas de grosses blessures, si et seulement si on n'a pas d'autres problèmes au niveau des vestiaires.
Eh bien écoutez, affaire à suivre. Merci en tout cas, Bédiara, de nous avoir contactés depuis Touba, donc dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. On part à Yaoundé, retrouver Donald. Bonjour Donald.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, Donald. Vous pensez que, comme de nombreux auditeurs, on est tous là à l'avoir constaté, le Barça a fait un recrutement hors norme. On rappelle les arrivées de Rafinha, de Lewandowski, et ce n'est pas terminé.
Ben oui, oh non, mais moi, il ne me convainc pas suffisamment. Parce que comme je disais, le recrutement de Barcelone n'obéit pas à l'esprit de Barcelone que nous avons connu ces 10 dernières années. Disons, on va prendre depuis 2005, le Barcelone qui a fait tous les grands résultats était constitué à 60% des enfants sortis de leur centre de formation à la Masia. Et c'est sur ça qu'on s'appuie avec des arrivées, des joueurs comme Eto'o, Ronaldinho.
Ronaldinho n'avait pas été formé à la Masia, c'était plutôt les Iniesta, Xavi, Piqué. Ronaldinho, il avait été formé à Porto Alegre, au sud du Brésil.
Et je dis bien qu'on s'appuyait à 75% sur la Masia, et on faisait venir des gens comme Ronaldinho, Eto'o, qui n'étaient pas de la Masia, mais la base c'était la Masia. Les Xavi, les Iniesta et tout le reste, les Puyol. C'est ça que je dis.
Et ça, vous le regrettez justement que le club ne s'appuie plus assez sur ses propres joueurs formés au club ?
Oui, et puis ça, justement, ça se voit sur la qualité du jeu et les résultats. C'est ce que je voulais dire concernant Barcelone.
Bon, eh bien écoutez, merci Donald, très bonne journée à vous à Yaoundé. On va aller du côté de Libreville. Léandre, bonjour.
Bonjour.
Léandre, alors quel est votre avis ? On va parler peut-être un petit peu du championnat allemand. Est-ce que vous pensez que le Borussia Dortmund pourra enfin titiller le grand Bayern Munich ?
Non, mais je ne pense pas, c'est perdu d'avance parce que le Bayern de Munich, bien que Lewandowski soit parti, bien que Manier ne soit pas l'équivalent de Lewandowski, mais je pense que le Bayern de Munich va devoir faire cavalier seul comme d'habitude, ce d'autant plus que le BVB, donc le Borussia Dortmund, a quand même perdu son fer de lance à la personne du jeune Haaland.
Et puis bon, c'est parti vrai à Manchester City. Et écoute, pas de peau, j'ai envie de dire, il a été remplacé par Sébastien Haller, le Français qui était à l'Ajax, blessé également. Il a dû être opéré malheureusement. Donc il est de côté pour un certain temps. Ça, c'est pas non plus une bonne nouvelle pour le Borussia Dortmund.
Pas du tout, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, on ne sait pas si il va comment dire, revenir aussi à citer qu'il a terminé la saison l'année dernière avec l'Ajax Amsterdam. Donc je pense que je vois plutôt comme concurrent, mais pas concurrent sérieux au point d'inquiéter le Bayern de Munich, plutôt Leipzig de Nkunku. Mmh. Parce que là-bas, il y a beaucoup de jeunes joueurs, et puis ils ont fait des recrutements quand même pas trop, pas de grands noms, mais c'est des joueurs quand même de devoir. Donc je pense qu'avec l'éclosion de Nkunku, avec une direction technique qui fait de plus en plus confiance aux jeunes, je pense que Leipzig peut quand même être un prétendant à la deuxième place, probablement passer devant Dortmund, mais pas au point de titiller le Bayern de Munich.
Et un petit mot sur Sadio Mané, vous le voyez bien s'adapter au Bayern de Munich?
Bon, il est évident que les joueurs de la classe de Sadio Mané qui arrivent, il y a beaucoup de pression parce qu'on dit quelque part qu'il est venu remplacer Lewandowski, mais c'est deux joueurs tout à fait différents parce que chacun joue dans son registre. Au Bayern de Munich, on jouait pour Lewandowski. Si Lewandowski a pu réaliser des stats aussi stratosphériques, c'est parce que toute l'attaque du Bayern de Munich, tout quasiment était axé sur Lewandowski qui était un sacré tueur. Mané, lui, va être isolé un peu sur le côté, ce n'est pas un joueur axial. Mané, normalement, devrait pouvoir s'en sortir, mais je ne pense pas que ce sera au point de faire oublier Lewandowski.
Bah, c'est sûr qu'il est difficile à oublier, ça a été un tellement grand joueur. On verra, il faut donner sa chance en tout cas à Sadio Mané. Merci Léandre, on va reparler du championnat de France. Armand, bonjour.
Bonjour, vous êtes à tous les auditeurs des RFI.
Et vous êtes à Libreville, vous pensez que l'arrivée d'un entraîneur comme Christophe Galtier au PSG est une belle opportunité pour le PSG?
Effectivement. Christophe Galtier, c'est un entraîneur purement français qui a réussi à faire de grandes choses avec des petits clubs.
Et oui, alors il a fait des grandes choses. Il a été champion de France avec Lille il n'y a pas si longtemps, en devançant le PSG. En même temps, il manque d'expérience en Ligue des Champions. C'est ce qu'on lui reproche. Est-ce que ça, vous le craignez?
Non, parce que c'est un homme qui a fait ses classes, qui a fait des petits pas. C'est en faisant des petits pas, justement, qu'on atteint des grandes choses. Et je pense que Christophe Galtier a les atouts. Alors certes, il n'a pas d'expérience et ça peut être critiqué, on comprend. Gérer des joueurs comme Neymar, Mbappé et Messi, pour ne citer que ceux-là, ce n'est pas facile, on comprend. Mais Christophe Galtier a le profil, il a la carrure et il a la tactique surtout pour mettre en place un système de jeu qui peut bouleverser l'Europe. Maintenant, est-ce que cela va se traduire sur le terrain, comme c'est le cas sur le papier? Ça laisse à désirer. Mais
l'histoire nous le dira, on verra. Là, on fait des pronostics un petit peu au hasard, puisqu'évidemment, le championnat n'a pas encore commencé. Merci Armand, très bonne journée à Libreville. J'aimerais quand même qu'on dise un mot du championnat italien qui reprend dans 15 jours. Pierre, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les RFI.
Pour vous, le championnat italien se jouera entre les deux Milan, l'Inter et le Milan AC.
Exactement, parce qu'il y a un moment donné où la Juventus avait dominé ce championnat.
Pendant plus de 10 ans, donc.
Et donc, c'était l'hégémonie de la Juventus de Turin. Les choses ont complètement changé. Il y a eu un travail qui a été très bien fait au niveau d'abord de l'Inter de Milan, qui a bien travaillé. L'année passée, c'est l'Inter qui a gagné ce championnat. Et puis, son rival aussi, qui a rivalisé aussi l'année passée et qui est réussi aujourd'hui.
Donc l'année dernière, c'était le Milan AC, le vainqueur, hein, et le deuxième l'Inter, et l'année d'avant, c'était l'Inter et le Milan AC.
Tout à fait, et puis vous allez voir que les deux équipes, jusqu'à la dernière journée, chacune était en mesure de gagner le championnat. Mmh. Donc je pense que cette année, les deux équipes sont bien faites, elles sont bien préparées pour encore pouvoir prétendre à gagner le championnat.
Donc un beau suspense, et où est-ce qu'on place la Juve entre les deux Milan? Est-ce que la Juve a un rôle à jouer ou pas? Très rapidement.
La Juve a un rôle à jouer parce qu'en fait, la victoire de Milan et de l'Inter va dépendre aussi de la façon dont la Juve peut jouer comme trouble fait entre les deux. Mais là aussi, il faut savoir que toujours ici au Nord, il y a aussi l'équipe qui cause beaucoup de problèmes. Et je pense que l'Atlanta peut être aussi protagoniste dans ce championnat ici.
Merci beaucoup Pierre, très bonne journée à vous en RDC. Demain, c'est la Libre Antenne. C'est vous qui choisissez le sujet sur lequel vous voulez rebondir à demain.
Atlantique Premium, la carte de crédit de Banque Atlantique, renouvelable jusqu'à 10 000 euros, sans contact, avec abonnement à un programme de fidélité, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir, ensemble.